Bonjour, mon nom est Michel Pion, vice-président de l'Association humaniste du Québec, et bienvenue au premier balado humaniste. Dans cette série, nous discuterons avec plusieurs invités de sujets reliés à l'humanisme séculier et athée. Dans ce premier épisode, j'ai demandé à Michel Virard, membre fondateur et actuel président de l'EHQ, de bien vouloir répondre à mes questions sur les origines de l'Association humaniste du Québec, et aussi de définir, pour ceux qui s'interrogeraient encore, en quoi consiste l'humanisme séculier moderne. Bonjour Michel, et merci de prendre un peu de ton temps pour nous parler.
Bonjour Michel, merci de me proposer cette entrevue. C'est agréable de savoir qu'on peut encore intéresser les gens 15 ans après avoir démarré l'association humaniste.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui a amené la création de l'EHQ en 2003, je crois?
Ce qui m'a amené à la création de l'EHQ, je dirais que c'est en fait la constatation qu'on avait des difficultés avec deux organisations sœurs, qui sont les Sceptiques du Québec et le Mouvement laïque québécois. Ces deux organisations qui étaient dans le paysage du Québec depuis longtemps. Je pense le MLQ, c'est très très ancien, les Sceptiques, ça date de 88. Donc on voit, on est en 2005, et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est en 2003 que j'ai commencé à réaliser qu'on avait un problème, parce que ces deux organisations ont voulu introduire une notion d'athéisme dans leur constitution, et se sont heurtées à des difficultés. En fait, par exemple, les Sceptiques ont été obligés de faire marche arrière, ils avaient modifié leur constitution, pour être une organisation athée, et il y a eu une réaction qui fait que ils ont dû faire marche arrière, et donc ils ont cessé de se déclarer athée à cause de ça. Et donc le Québec s'est retrouvé avec sans aucune organisation pour représenter les athées. Et c'est à ce moment-là que, avec Bernard Cloutier et plusieurs autres, on s'est réunis. En fait, ça a duré peut-être 2 ans. Pendant lesquels on se réunissait dans un restaurant et on discutait de ce qu'il fallait faire. Et éventuellement, on a décidé de créer, non pas une organisation, mais deux organisations. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. On a créé, Bernard Cloutier a créé la Fondation humaniste en novembre ou décembre 2004. Et j'ai créé avec Normand Baillargeon et Bernard Cloutier l'Association humaniste du Québec en juin 2005. Et pourquoi maintenant nous avons deux organisations qui sont destinées à défendre les intérêts des athées et des agnostiques, puisque la définition de athée, malheureusement, ça ne signifie pas qu'on ne croit pas dans le surnaturel. Il y a des athées qui croient dans un certain surnaturel, en particulier les bouddhistes, par exemple, qui vous diront non, il n'y a pas de Dieu, mais il y a quand même l'existence d'une âme qui se transmet, et donc ce qui est une croyance que nous pensons être du domaine du surnaturel. Et l'Association humaniste du Québec, c'est une association dont le premier article rejette la croyance au surnaturel, au mysticisme, voilà.
Maintenant, est-ce que tu peux nous décrire brièvement quels sont les principaux idéaux que l'humanisme moderne défend?
Je dirais que... Bon, il y a la raison et la compassion. On peut ajouter aussi la tolérance. Mais je sais que la tolérance, c'était un sujet important pour Bernard Cloutier, l'autre cofondateur de l'association. Mais je dirais que de façon générale, les humanistes vont toujours mettre en avant la raison et la compassion. Alors, vous me direz, oui, il y a beaucoup d'organisations qui prétendent la même chose. Oui, il s'agit de s'occuper de réellement, de savoir que, par exemple, l'indignation, qui est un bon moteur pour nous aider à démarrer quelque chose, n'est pas forcément un bon guide pour arriver au but. L'indignation sans la raison va vous donner des horreurs absolument épouvantables. Donc, il est important que la raison nous guide à tout moment. Ça, je dirais que c'est non négociable. Et ça définit vraiment les humanistes.
D'accord. Si on va sur le site, on voit que l'EHQ a certains principes directeurs. Est-ce que tu peux nous mentionner les principes de l'association?
Alors, en bref, le premier principe, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est que nous rejetons toute croyance basée uniquement sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la mystique, ou ayant recours au surnaturel. Ça, pour nous, c'est fondamental, non négociable. Si vous nous arrivez avec des forces invisibles, non mesurables, mais qui vous pensez être la cause des phénomènes physiques ou sociaux, nous avons des raisons de croire que c'est une illusion, et donc nous les rejetons. Voilà. Ça, c'est le premier principe. C'était le premier principe. Le deuxième, bon, c'est la valeur, la dignité, l'autonomie des individus. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous distingue des totalitarismes, je dirais. Parce que on ne peut pas vouloir la dignité et l'autonomie des individus et leur imposer au nom d'une prétendue supériorité de la communauté, n'importe quoi, dans le but de protéger, soi-disant, la communauté. Cette opposition entre individualisme et le côté social de chacun d'entre nous, elle existe toujours, mais elle doit être arbitrée en dernière analyse, en fonction aussi des individus, car ceux-ci ont précédence sur les idées que la société peut nous imposer. Donc ça veut dire qu'il va en découler la liberté de conscience, par exemple. La société ne peut pas m'imposer de penser d'une certaine façon. Ça, c'est quelque chose, elle peut me pousser à réfléchir, me pousser dans une direction, mais elle ne peut pas me l'imposer. C'était, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, c'était ce que prétendait faire l'Église catholique au travers de l'Inquisition. Elle prétendait imposer la conscience aux individus. Et c'était, pour nous, je pense qu'en fait, tout l'Occident a finalement rejeté cette conception. Et nous sommes les héritiers de cette tradition qui est apparue un peu révolutionnaire à un certain temps, mais qui est maintenant largement partagée par tout l'Occident. Le troisième, c'est la science. Il s'agit de la méthode scientifique, par exemple. Il faudrait surtout pas croire que la méthode scientifique est quelque chose réservé à la science. La façon d'approcher la résolution des problèmes, elle est, et pas seulement du côté scientifique, elle doit être quelque chose qui est fondé sur une méthode qui a toute l'apparence de méthode scientifique. Rechercher des preuves, c'est pas juste rechercher des preuves lorsque l'on est dans un laboratoire, c'est rechercher des preuves lorsqu'on est dans la rue et qu'on cherche n'importe quoi qui nous intéresse. On ne se fie pas juste à des idées préconçues, on recherche des éléments concrets qui vont être là pour confirmer peut-être nos intuitions ou au contraire nous amener à réviser notre opinion. Le quatrième principe, c'est la démocratie et les droits de l'homme. C'est sûr que nous sommes des fervents supporters de la démocratie et donc... Alors, la démocratie, c'est quelque chose de vaste. Bon, c'est sûr que c'est pas en 30 secondes que je vais pouvoir vous définir l'opinion des humanistes sur la démocratie, mais nous sommes des défenseurs de la démocratie, donc par opposition aux prétentions totalitaires qui veulent soit imposer une idée unique et imposer un gouvernement avec une source de pouvoir qui n'est pas celle de la souveraineté du peuple. Le cinquième principe, la liberté personnelle est associée à la responsabilité sociale. Ça, c'est là, on prend le contre-pied de notre soutien au droit de la personne en disant qu'il ne peut pas y avoir de droit sans également y avoir des devoirs, et ces devoirs qui sont des obligations morales. sont bien présents et font partie de l'humanisme. L'humanisme ne peut pas être constitué seulement de droit. Le sixième principe, c'est l'alternative à la religion dogmatique. Là, je veux faire une petite excursion dans l'histoire de l'humanisme. Vous savez, l'histoire de l'humanisme, elle s'est née entre les deux guerres mondiales, dans les années 20-30, où le premier manifeste humaniste est apparu. Et il était une réalisation de deux choses. D'abord, qu'il y avait eu cette première guerre mondiale épouvantable, qui nous avait fait douter, en fait, de la raison humaine. S'il y a eu autant de morts dans cette guerre, alors que, en fait, le résultat était assez peu différent au niveau des sociétés par rapport à ce qu'il y avait avant la guerre, eh bien, ça a fait réfléchir beaucoup d'humanistes. On pense à ceux qui ont voulu, qui ont constaté, par exemple, que les troupes françaises et les troupes allemandes se battaient au nom du même Dieu. Donc, la religion les poussait à vouloir défendre une conception du divin qui n'était pas différente. On se demande pourquoi ils s'en sont venus à faire des millions de morts alors qu'ils adoraient présumément le même Dieu. Donc c'est une constatation qui était assez débilitante pour les humanistes qui étaient, à l'époque, il y avait des humanistes qui étaient déistes, qui croyaient aussi, et on en trouvait, l'humanisme chrétien, soi-disant, existe aussi, on ne peut pas le nier. Donc cette conception de l'humanisme a dû se remettre à l'heure la conception de religieuse, qui passait souvent au travers de la religion. Maintenant, ce n'est plus le cas. À partir des années 30, ce que les humanistes veulent, c'est fournir aux humains cette espèce de cohésion sociale qui était fournie par la religion, mais au travers d'autres moyens. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que vous allez avoir des humanistes qui font des mariages humanistes. Donc, on a des réunions des humanistes. Pourquoi ? Ben parce que les besoins sociaux des humains qui étaient auparavant satisfaits par les religions n'ont pas disparu parce que les religions se sont maintenues en retrait maintenant. Ces besoins sont toujours là et il est important de les satisfaire parce qu'autrement ils risquent de créer soit des frustrations, soit la création de communautés qui peuvent être mal intentionnées en fait. On peut former des gangs simplement sur ce besoin de réunion, n'oublions pas, relégarer la racine de religion, c'est réunir. Eh bien, il est toujours important de pouvoir réunir les humains, mais pas pour nécessairement adorer du divin. Ça, c'est une autre histoire, et pour nous, c'est de l'histoire qui se termine tranquillement au cours de nos années. Le septième principe, qui est la créativité artistique et l'imagination. L'importance des arts, l'importance de la littérature, l'importance de ces choses-là ne doit jamais être sous-estimée, et il est important pour une vie humaine complète de pouvoir en fait profiter de cette culture humaine qui est maintenant cette cathédrale sémantique qui est celle des humains, qui est cette incroyable construction qu'on voit maintenant aujourd'hui très souvent réunie sous le vocable d'une cathédrale sémantique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a construit quelque chose, à nous tous, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité maintenant, et dans l'histoire même de toutes les espèces animales. Nous sommes les seuls à avoir cette immensité de connaissances. Il faut que tous et chacun puisse en profiter afin de se construire un sens à sa propre vie. En fait, l'humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à travers le développement d'une vie morale et créative. C'est un moyen éthique et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L'humanisme peut être une façon de vivre pour chacun et partout. Il n'y a pas vraiment de restrictions sur qui peut être un humaniste, autre que celle de respecter la dignité de tous?
Une autre question peut-être que j'aurais. On entend souvent parler, quand on discute d'humanisme, de philosophie des Lumières. À quoi exactement est-ce qu'on fait allusion?
Les Lumières, qui correspondent en fait à l'origine à un mouvement du XVIIe et du XVIIIe siècle, a produit un certain nombre de changements de valeurs par rapport aux périodes antérieures de l'Occident. Et il y a plusieurs choses qui sont apparues, je dirais même ça va jusqu'au XIXe siècle, parce que on va par exemple trouver l'importance de l'éducation. C'est pas quelque chose qui existait auparavant. L'éducation, c'était, vous remontez au Moyen-Âge et même à la Renaissance, l'éducation, c'est quelque chose qui est réservé à une élite qu'on appelle le clergé. On est clerc. Clerc, ça veut dire essentiellement quelqu'un qui a été éduqué. Cette notion que tout le monde doit pouvoir bénéficier de l'éducation, c'est une des grandes valeurs qui a été créée au moment des Lumières. C'était en fait fort bien formalisé par Condorcet, donc on est au moment de la Révolution française, et cette idée que tout le monde doit recevoir une éducation, y compris les filles, n'oubliez pas, ça c'est quelque chose. Le rejet de l'esclavage, l'égalité homme-femme, tout ça ce sont des valeurs qui nous proviennent des Lumières. L'égalité des chances, l'égalité des droits, le refus de la discrimination sur des privilèges de naissance, l'abolition des privilèges de naissance, c'est quelque chose qui nous vient des Lumières. Et c'est évidemment aussi, au XIXe siècle, on a cette notion de la société ouverte, c'est-à-dire du libéralisme philosophique, que je distingue ici, bien sûr, du libéralisme politique, qui est une autre histoire. Mais je parle du libéralisme philosophique, c'est-à-dire de cette idée qu'il vaut mieux avoir une société ouverte, c'est-à-dire où la censure n'est pas le mode principal de fonctionnement, et donc qui permet aux idées de s'exprimer, de s'échanger. C'est quelque chose d'indispensable pour nous, les humanistes. Et ce sont des valeurs de la philosophie des Lumières.
Merci. On parle également, surtout récemment, de concepts comme le post-humanisme ou le transhumanisme. En quoi est-ce différent, si ça l'est, de la conception de l'humanisme séculier et athée que défend l'AHQ?
L'AHQ, ainsi que la plupart, en fait, des organisations humanistes existant en Occident, là, ne prétend pas avoir un art divinatoire suffisamment développé pour savoir qu'est-ce que deviendra l'espèce humaine. Or, lorsqu'on parle de transhumanisme ou encore de post-humanisme, implicitement ou explicitement, on parle en fait de modification de l'homme ou de sa façon de fonctionner, qui sont encore aujourd'hui de la science-fiction. Donc il s'agit peut-être de le fait qu'on va pouvoir modifier l'humanité. Oui, ça va devoir appeler à considérer les conséquences de ces choses-là, et évidemment, la méthode scientifique que nous prônons permet d'évaluer aussi les conséquences des modifications qu'on peut implanter ou présumément sur l'humanité. Ces choses-là viendront en leur temps. Pour l'instant, l'AHQ se contente de développer l'humanisme du 21e siècle, pas celui du 22e siècle.
Très bien. Pour terminer, je présume que, si on ramène les choses au niveau du Québec, je présume que l'AHQ est en faveur de la loi 21 décrétée par le gouvernement de la CAQ sur la laïcité.
En effet, un des fondements, en fait, des Lumières, c'est justement, comme on dit, ce refus de la discrimination, le refus de l'assignation d'une case, d'une catégorie particulière à la naissance, qui déterminerait le reste de votre existence. Et donc, c'est un refus du communautarisme. C'est pas parce que vous êtes né à l'intérieur d'une communauté que vous êtes obligé d'y rester tout le reste de votre vie, ou vous avez cette possibilité de choix, d'autonomie, elle est centrale à l'humanisme. Or, un des problèmes que nous avons au XXIe siècle, c'est l'intrusion du communautarisme religieux dans la société, en particulier dans les sociétés occidentales, suite à l'afflux d'un grand nombre d'immigrants qui proviennent de sociétés qui vivaient sur ce mode communautarisme jusqu'à présent. Et donc, il est important d'ouvrir ces sociétés fermées à la pluralité et en particulier le fait de pouvoir vivre ensemble avec des valeurs communes, un minimum de valeurs communes. On ne peut pas prétendre que toutes les valeurs vont être identiques pour tous les individus, ça serait d'une absurdité patente. Mais le fait est qu'il existe un minimum de valeurs communes qui doivent être acceptées, consensuelles, pour qu'une société fonctionne. L'alternative à ça, c'est la guerre civile quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose d'important. Donc pour cela, il nous faut la laïcité, c'est-à-dire le retrait de l'État, du gouvernement, de fonctions qui sont normalement associées à la religion. Donc l'État ne peut pas avoir de religion officielle. Ça pour nous, c'est non négociable. Et donc la loi 21 qui déclare, je ne parlerai pas nécessairement des détails qui sont dans la loi 21, mais le principe même de la laïcité de l'État, le fait que le Québec se déclare comme État laïque, pour nous, c'est un immense pas en avant qui va permettre, en fait, l'évolution d'une société apaisée et non pas d'une agrégation de communautés en conflit permanent.
Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps de nous parler. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site web, qui est assohum.org, ou notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@assohum.org. Merci, et nous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.